Place Info.
Yannick Jadot.
Bonjour.
Après une semaine de débats sur le voile, sur la laïcité, sur l'islam de France, Emmanuel Macron est donc sorti du silence. Hier soir, déclaration sous forme de mise en garde.
Faisons bloc et ne nous divisons pas pour lutter d'abord et avant tout contre la radicalisation dans notre société. Œuvrons pour que la République soit partout et être intraitable avec le communautarisme. Mais ne stigmatisons pas nos concitoyens.
Emmanuel Macron, qui quelques heures plus tôt avait également évoqué un climat de guerre civile, si cet amalgame continue, vous partagez l'inquiétude du chef de l'État ?
J'en partage l'inquiétude, mais du coup je m'interroge. Pourquoi le chef de l'État, au moment où il y a les personnels de santé, les personnels de l'enseignement, les policiers, les pompiers qui s'inquiètent et qui sont dans la rue pour réclamer des moyens pour exercer leurs fonctions, pourquoi il nous pose le débat de l'immigration ? Pourquoi son ministre de l'Éducation, au moment où une directrice d'école se suicide, il alimente le débat sur le voile ? Finalement, on a l'impression qu'on a là des pyromanes qui, après avoir alimenté, attisé ces débats dans la société, aujourd'hui se dressent en pompiers. Donc on a un petit souci autour de ça. Alors, si vous voulez, on a un sujet majeur dans notre société, qui est évidemment la détection de la radicalisation. On voit à quel point les formes de terrorisme ou d'attentats terroristes sont en train d'évoluer. Ça rend les choses extrêmement difficiles. On a des policiers qui sont menacés dans la rue, qui sont menacés chez eux, on se souvient de l'attentat de Magnanville, et qui maintenant sont menacés dans leurs locaux. On a des sujets extrêmement lourds, et sur lesquels, dès le début, il faut jouer l'apaisement, il faut jouer de l'efficacité. Moi, j'ai toujours dit, sur la question du terrorisme, sur la question de la radicalisation, moi, j'ai toujours demandé au président de la République d'organiser un conseil de sécurité sur le terrorisme avec les forces politiques représentées au Parlement pour justement éviter l'instrumentalisation politique, politicienne de ce débat-là pour mettre tout le monde autour de la table pour qu'on n'ait qu'un seul sujet. L'efficacité de notre lutte contre le terrorisme et servir nos concitoyens.
Renaud Dely. Yannick Jadot, l'apaisement et le silence, c'est pas la même chose. Vous dites d'abord, il faut pas en parler, il faut pas organiser de débat, par exemple, sur l'immigration.
Non, j'ai pas dit
au
ça.
Parlement.
Ah, j'ai pas dit ça.
Avez,
non.
Vous j'ai reproché au président de la République et au gouvernement de mettre ces sujets sur la table.
Non,
on peut en parler sans faire des amalgames.
Mais moi, je suis tout à fait prêt à ce qu'on ait un débat dans notre pays sur l'immigration. Nous savons que c'est pas la préoccupation première des Français. Mais ayons un débat. Comment on fait en sorte qu'on accueille en dignité les personnes qui sont sur notre sol et qu'on évite cette indignité, cette inhumanité des personnes qui, venant de loin, venant dans des conditions absolument dramatiques, vivent aujourd'hui dans la rue ? Comment on organise une politique migratoire européenne ? Un grand sujet pour l'Europe. Mais quand vous avez Emmanuel Macron ou, souvenez-vous, de la porte-parole du gouvernement nous dire « nous devons nous réarmer », langage guerrier, face à l'immigration, reprenant d'une certaine façon en filigrane le thème du grand remplacement, de l'invasion massive des immigrés, tout ça participe. On a l'impression que c'est comme un surfeur qui, au fond, voudrait surfer sur la vague de ces peurs-là, des propositions portées par l'extrême droite, mais en considérant que, en étant surfeur, il va maîtriser la vague. Non, il n'y a qu'une chose qui maîtrise la vague du populisme et de la xénophobie dans notre pays, ce sont des digues. Et le président de la République, maintenant, nous réaffirme ces digues. Tant mieux, mais il aurait dû éviter de fissurer la société dès le début.
Pour reprendre votre expression, Yannick Jadot, est-ce que c'est être un pyromane que de s'interroger sur le port du voile en France, comme l'a fait par exemple Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation ?
Mais il connaît la loi, Jean-Michel Blanquer. Il sait parfaitement que les mères accompagnatrices peuvent porter
un foulard. Il l'a d'ailleurs rappelé dans cette intervention.
Oui, il rajoute, il alimente un débat. Et alimentant un débat, il sait parfaitement ce à quoi il participe, contribue, et ben de faire en sorte que ce matin, depuis 5 minutes au moins, nous parlons du voile et nous ne parlons pas de l'insécurité économique qui alimente tous les populistes. Relisez ou lisez le bouquin de Cohen et des autres.
Le reproche qui lui est fait précisément à Jean-Michel Blanquer, c'est d'avoir utilisé le mot « pas souhaitable », d'avoir dit que le port du voile dans la société française n'était pas souhaitable.
Mais ce qu'on lui reproche, que je lui reproche moi, c'est d'alimenter un débat qui n'a pas lieu d'être. Nous avons des règles dans notre pays sur le port du voile,
le port d'un
foulard, notamment pour les mères accompagnatrices. Le Conseil d'État s'est exprimé très clairement sur ce sujet-là.
Donc on ne peut pas émettre d'avis sur le voile, juger qu'il n'est pas souhaitable.
Mais parce qu'il sait très bien qu'à partir de là, on a quand même cette polémique absolument abominable d'un élu du Rassemblement National, et que c'est devenu le grand sujet de la France aujourd'hui. C'est pas possible. On a, encore une fois, nous avons aujourd'hui les enseignants, les personnels de santé, les pompiers, les policiers, et notamment, quand je parle des personnels de santé, à l'hôpital. On est dans une situation absolument dramatique. Notre pays n'a pas seulement le devoir de la reconnaissance que toutes ces personnes travaillent avec des moyens, mais nous devons donner tous les moyens à ces personnes pour bien exercer leur mission, parce que ce qu'ils exercent, leur mission, c'est notre vivre ensemble. Souvent, ces personnes-là, je considère que ce sont les poilus de la République. Ils sont en première ligne de toutes les difficultés de la société. Et parler aux infirmières, aux aides-soignants, aux médecins dans les urgences, leur sujet, c'est pas le voile. Parler aux enseignants, leur sujet, c'est pas le voile. Parler aux policiers, aux pompiers, leur sujet, ça n'est pas le voile. C'est d'avoir les moyens d'assurer, de contribuer au pacte républicain. Et aujourd'hui, on a une société qui est en train de se déliter. Moi, je suis extrêmement inquiet de voir à quel point tout ce qui fait notre cohésion nationale, tout ce qui fait le pacte républicain est en train de s'affaisser. Et on nous balance le débat sur le voile. Je trouve que c'est sacrément décalé et sacrément irresponsable.
On va quitter ce débat français, Yannick Jadot, dans quelques instants pour parler de la situation en Syrie. Ça fait une semaine maintenant que l'armée turque a attaqué le nord-est du pays. Vous nous direz qui porte la responsabilité de ce qui se passe là-bas et ce que peut faire la France si elle peut faire quelque chose pour tenter d'y mettre fin. D'abord, le rappel de l'actualité, c'est avec Mélanie Delaunay. Il est 9h20 sur France Info.
Un nouveau débat sur la réforme des retraites ce soir et cette fois-ci, c'est le Premier ministre Édouard Philippe qui se plie à l'exercice à Lons-le-Saunier dans le Jura. Alors que dans un document de travail consulté par France Info, le gouvernement laisse la porte ouverte à d'autres options que l'entrée en vigueur de la réforme à partir de la génération 1963. Christian Estrosi, grand favori des élections municipales à Nice, selon notre sondage Ipsos Soprasteria pour France Info, France Bleu et Nice Matin. 39% des voix au premier tour pour le maire sortant, 24% pour Éric Ciotti. Emmanuel Macron répond à la polémique autour du voile islamique. Il faut être intraitable avec le communautarisme, mais sans stigmatiser les musulmans, dit le chef de l'État, qui met en garde contre un raccourci fatal entre le terrorisme et l'islam. 300 000 déplacés en une semaine de combat dans le nord-est de la Syrie. Le vice-président américain est à Ankara aujourd'hui pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu. Mais le président turc exclut toute trêve. Il demande aux forces kurdes de déposer les armes.
France Info. Et tout est plus clair.
Yannick Jadot, Mélanie Delaunay le rappelait à l'instant, les États-Unis tentent d'imposer un cessez-le-feu en ce moment dans le nord de la Syrie, envahi il y a une semaine maintenant par l'armée turque. Que peut faire la France dans cette guerre ?
C'est surtout ce que peut faire l'Europe aujourd'hui. L'Europe doit parler d'une seule voix et surtout doit agir d'une seule voix. Vous savez que l'Union européenne est le premier débouché commercial de la Turquie. Nous allons porter dès la semaine prochaine au Parlement européen la proposition de suspendre l'union douanière avec la Turquie. La question n'est pas de viser, de cibler les populations turques, mais il faut, comme les Américains, avoir des mesures très précises sur les dirigeants turcs en matière de comptes bancaires, en matière de possibilité d'entrer dans l'Union européenne.
Concrètement, suspendre l'union douanière.
Suspendre.
Ça a quelles conséquences ? Plus de relations commerciales avec la Turquie ?
Non. Suspendre l'union douanière, c'est suspendre les préférences commerciales que nous accordons à la Turquie du fait de cet accord, de cette union douanière que nous avons avec la Turquie. Donc, c'est pas stopper le commerce, c'est mettre un coup de pression énorme sur la Turquie pour qu'on arrête ce massacre. Vous vous rendez compte que la façon dont l'Union européenne ne pèse pas sur la région La façon dont les États-Unis, de manière totalement insupportable, totalement instable, gèrent
la Russie,
sa relation
notamment,
à la...
est redevenue
mais donc,
maîtresse
nous donnons,
du jeu dans la région.
Nous sommes en train de donner les pleins pouvoirs à Poutine sur ce pays. Poutine qui, maintenant qu'il y a tous les caméras sur la Syrie, a arrêté de bombarder Idlib.
C'est le retrait américain annoncé par Donald Trump qui est à la source de cette déstabilisation pour vous ?
Bien sûr.
Donc vous souhaiteriez que les Américains maintiennent leurs troupes dans la région, voire les renforcent ?
Il faut que les Américains maintiennent leurs troupes. Et il faut que l'Union européenne, encore une fois, mette un énorme coup de pression sur la Turquie, parce que on est en train de retomber potentiellement dans une guerre civile extrêmement terrible pour les populations civiles, de déstabiliser totalement la région.
C'est paradoxal pour l'Europe de demander, de solliciter de la part des Américains de maintenir ou de renforcer leur présence militaire dans la région.
Vous avez raison, parce qu'on n'a pas de politique de défense commune. Vous avez raison, nous ne sommes pas assez présents dans ce qu'est notre environnement immédiat. Et puis, regardez, à partir du moment où l'Union européenne n'est pas capable d'assumer collectivement la question des réfugiés, personne ne dit que c'est simple. Mais à partir du moment où nous ne l'assumons pas, nous transférons cette responsabilité à la Turquie d'Erdogan. Nous donnons des milliards à Erdogan pour qu'il gère pour nous la question des réfugiés. Eh bien forcément, nous sommes dans toutes les complaisances. Quand nous n'investissons pas dans nos infrastructures vitales, dans toute l'Europe, nous donnons la main aux Chinois qui rachètent nos infrastructures vitales. On peut prendre la même chose sur Poutine. Si l'Europe n'est pas capable de se ressaisir, si l'Europe n'est pas capable de porter une politique extérieure commune avec une politique de défense, une politique industrielle, une souveraineté économique et politique forte, nous serons dans toutes les complaisances vis-à-vis des dictateurs. Et quand les Chinois massacreront les Ouïghours, on dira rien. Et quand les Turcs continueront potentiellement à massacrer les Kurdes, nous ne dirons rien. C'est une faute politique lourde.
Yannick Jadot, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, est arrivé il y a quelques instants à Bagdad, en Irak, pour y tenter d'y négocier avec les autorités le fait que les djihadistes français détenus dans la région, à la fois côté irakien et côté syrien, soient jugés en Irak plutôt que rapatriés et jugés chez nous en France. Est-ce qu'il a raison ?
Il sera, à mon avis, extrêmement difficile de juger en Irak des djihadistes qui ont commis des atrocités en Syrie. Mais moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait rapatrier ces terroristes. Moi, je préfère les avoir dans des quartiers de haute sécurité en France, emprisonnés pour extrêmement longtemps.
Là, on parle probablement de centaines et de centaines de personnes.
Oui,
est-ce que vous pensez que la France est capable de gérer dans ces prisons ?
Ça dit l'ampleur du danger. Ça dit l'ampleur
du
danger.
C'est la difficulté qu'on a eue à régler quelques dizaines, puis quelques centaines de cas de prisonniers radicalisés. Là, il s'agit de...
Encore une fois,
gens qui ont
procédé
à des massacres sur place.
Transférer, déléguer à d'autres cette responsabilité qu'est la protection des Français, puisqu'il s'agit potentiellement de terroristes qui reviendraient sur le sol européen ou sur le sol français et potentiellement commettre des attentats. Et ben encore une fois, moi je préfère les avoir dans des quartiers de haute sécurité en France que dans des camps mal surveillés. Et on l'a vu, on a dit, on va déléguer ça aux Kurdes. Ah bah oui, mais là, ils sont en train d'ouvrir les portes, puisqu'ils sont en train de se faire taper par les Turcs. Donc moi, je préfère qu'on les ait sous notre œil plutôt que de le déléguer à d'autres.
Une question toute simple sur la Turquie, puisque cette situation, elle est source de plein de paradoxes, on les a évoqués. La Turquie, c'est notre allié dans l'OTAN. La Turquie est membre de l'OTAN. Est-ce qu'il faut que l'OTAN exclue la Turquie de ses rangs ?
En tout cas, là, il faudrait sérieusement suspendre la participation de la Turquie dans l'OTAN. Et puis, attention aux effets d'annonce. Oh, nous sommes en train de revoir nos contrats d'armement avec la Turquie. On est en train de suspendre.
C'est bien, ça.
Les prochains contrats d'armement.
Enfin, est-ce que c'est déjà une bonne décision qui va dans le bon sens ?
Mais c'est une décision qui peut peser, mais ne pèsera pas dans les semaines, dans les mois qui viennent. Vous n'avez pas échappé que la Turquie est une armée extrêmement puissante. Elle va pas manquer de munitions pour attaquer les Kurdes, que la Turquie de plus en plus se fournit auprès de la Russie. Donc de ce point de vue-là, aujourd'hui, par contre, là, si on pouvait avoir un moment, un vrai débat dans notre pays, un débat transparent sur quel type d'armes nous vendons dans le monde, et à qui nous les vendons. On a eu l'affaire de l'Arabie Saoudite qui fait la guerre et qui massacre au Yémen. Maintenant, on a l'affaire de la Turquie qui fait la guerre contre nos alliés kurdes. Il va peut-être à un moment falloir s'interroger à qui nous vendons des armes et notre responsabilité dans le bazar mondial.
Yannick Jadot, l'Agence internationale de l'énergie s'inquiète du nombre de SUV vendus dans le monde ces dernières années. Il y a 200 millions de SUV, ces grosses voitures, souvent utilisées d'ailleurs en ville, dans les pays riches en tout cas. 200 millions de SUV contre 6 millions de voitures électriques aujourd'hui en circulation dans le monde. L'Agence de l'énergie dit on n'y arrivera pas. Tout simplement, ça ne sert à rien. C'est aujourd'hui le deuxième facteur de l'accroissement de la pollution au niveau de la planète. Qu'est-ce qu'on fait ?
Mais qu'est-ce qu'on fait ? On a, vous savez, au niveau européen...
Ça va être difficile d'interdire aux Chinois d'acheter des SUV. Je prends le problème à l'envers, mais...
Oui, mais chacun a sa responsabilité. Avant de s'intéresser à la façon, y compris l'électrique, se développe beaucoup plus en Chine qu'en Europe aujourd'hui, parce qu'ils
L'agence
ont plein de
population. L'agence dit aussi, ce sont des
romaines.
Voitures qu'on va avoir beaucoup de mal à rendre électriques, parce que ce sont des voitures très lourdes.
Mais vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Moi, ça fait 15 ans que je m'occupe de ce sujet au niveau européen. Tous les ans, quasiment, nous nous battons au niveau européen pour imposer aux constructeurs automobiles des normes en matière d'émissions de CO2, en matière d'émissions de dioxyde d'azote, qui, la dioxyde d'azote, c'est surtout la pollution de l'air en ville. Le CO2, c'est le dérèglement climatique. À chaque fois, les constructeurs automobiles font pression sur les gouvernements en disant « on peut pas, technologiquement, on peut pas ». En fait, ils se réservent en permanence le potentiel, la capacité à faire des véhicules plus lourds,
parce qu'il y a
plus puissants et plus émetteurs.
Parce qu'il y a des gens qui les achètent.
Oui, mais il y a des gens qui les achètent. Mais
on peut interdire aux constructeurs de les fabriquer.
Je suis d'accord avec vous, mais à partir du moment où ce sont les gouvernements et l'Union européenne qui édictent des réglementations de protection de la santé, de protection du climat, à nous d'avoir des mesures beaucoup plus strictes. Et puis surtout, qu'est-ce qui va se passer si on continue comme ça ? Vous savez qu'en France, on vend aujourd'hui, dans des concessions automobiles, on vend des véhicules qui polluent 5 à 6 fois la norme en matière d'azote. C'est-à-dire qu'on a des problèmes majeurs de pollution de nos enfants, de pollution de tout le monde. En ville, nous vous vendons des voitures frauduleuses. Nous avons plus de 8 millions de diesel dans notre pays qui polluent plus de 3 fois la norme.
Le gouvernement est complice à vos yeux ?
Le gouvernement est complice à partir du moment où le gouvernement n'impose pas aux constructeurs automobiles de respecter les règles et de faire, comme ça se fait beaucoup en Allemagne, de contraindre les constructeurs automobiles à recalibrer à leurs frais les moteurs pour justement éviter cette fraude massive.
Est-ce
en
qu'il
France,
faut aller, Yannick
nous
Jadot, vers une interdiction
pas.
Des SUV à la
Il
vente.
Faut interdire la pub, ça c'est une évidence. Ouais. On peut pas en permanence, alors je sais que ça fait vivre une bonne partie des médias
interdire
français.
Interdire les SUV, est-ce que c'est possible ou pas ? Est-ce que vous le souhaitez ?
Non, mais c'est la règle, moi, ma question, c'est pas, je vais pas demander aux constructeurs automobiles, je vais pas définir la forme et le poids de l'automobile.
Vous pourriez imaginer une réglementation
mais
qui aille
vous,
dans ce
mais sens-là. Si vous imposez... Ce qui est parfaitement possible, une réglementation très contraignante sur le CO2 des voitures et sur les émissions de dioxyde d'azote, vous verrez que nos voitures vont changer. Vous savez, moi je prends toujours un exemple. Quand on se bat pour sortir des moteurs thermiques, les constructeurs automobiles disent oh, « pas avant 20 ans, au moins 20 ans on ne saura pas faire ». Mais on a des ingénieurs, on a des start-up, on a des entreprises qui sont en train d'innover. Vous savez que pendant la Seconde Guerre mondiale, on lance, le ministère américain de l'armée lance les termes de référence sur la Jeep. 18 mois après, entre les termes de référence, 18 mois après, on produisait massivement des Jeeps. Ce que je veux dire, c'est que si nous imposons des normes, c'est pas simplement de la contrainte, c'est de l'innovation.
Un effort de guerre pour sauver le climat.
Mais c'est un effort de guerre pour sauver le climat, parce qu'il va bien falloir qu'on y passe. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on veut à la fin ? On veut des bagnoles chinoises conduites par Google, ou on veut que nos 12 millions de salariés européens de l'automobile aient une perspective ? On veut que nos ingénieurs aient une perspective, que nos centres de recherche et une perspective. Il y a des choses extraordinaires qui se passent sur la mobilité. Pourquoi est-ce qu'on laisse les constructeurs automobiles faire des bagnoles plus lourdes, plus polluantes et plus consommatrices ?
Je vous interromps, Yannick Jadot, il est 8h et presque 52 minutes. On est donc terriblement en retard pour accueillir Mélanie Delaunay pour le rappel de l'actualité. Et on poursuit cet entretien juste après, si vous voulez bien.
Ils soupçonnent Nordal Lelandais d'avoir tué leur fils. Les parents d'un jeune homme de 18 ans, retrouvé mort en 2015 en Savoie, portent plainte contre X pour relancer l'enquête. C'est bien Nordal Lelandais, déjà poursuivi pour les meurtres de la petite Maëlys et du caporal Noyer, qui est visé, confirme leur avocat à France Info. 11 syndicats et associations dénoncent des négligences, un manque de transparence et pointent la responsabilité de l'État et des industriels. 3 semaines après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, une tribune à lire sur franceinfo.fr. Le chef de la diplomatie française en Irak, Jean-Yves Le Drian, discute en ce moment avec les autorités du sort des djihadistes français détenus dans des camps et du dispositif pour les juger. Des milliers de manifestants pour une marche pacifique à Barcelone, puis à nouveau des affrontements violents entre des militants au visage masqué et les forces de l'ordre. Troisième soir de manifestation après la condamnation de dirigeants indépendantistes catalans.
France Info. Et tout est plus clair.
Yannick Jadot, la justice britannique vient d'interdire aux militants d'Extinction Rébellion de continuer à bloquer une partie du centre de Londres. Est-ce qu'il faut faire la même chose en France ?
J'étais encore à Londres hier. Ils étaient sur Trafalgar Square, donc ils bloquaient pas la circulation. Ils étaient sur une place. Il faut faire extrêmement attention. On a toute une génération, et ça va au-delà des jeunes, qui est en train de s'emparer et de la question du climat et de la question de la politique. Vous savez, Extinction Rébellion, c'est un peu comme les Gilets jaunes sur des sujets qui sont à la fois assez connexes d'ailleurs, la question de l'environnement et la question du social, c'est de se réemparer de l'espace public pour dire notre destin se joue en ce moment et nous voulons maîtriser notre destin. Nous voulons maîtriser nos vies sur l'alimentation, sur l'agriculture, sur nos logements, sur évidemment éviter le chaos climatique, éviter l'anéantissement du vivant.
Vous les soutenez sans réserve.
Mais je les soutiens parce que on est quand même, on a toutes les alertes scientifiques qui sont là. On n'a que quelques années pour agir. Et vous avez des citoyens qui s'emparent de ça, qui vont dans la rue et qui disent, écoutez les scientifiques. Agissons. Et évidemment, il faut pas être simplement dans l'interpellation ou dans la dénonciation. Il faut être aujourd'hui dans la mise en œuvre des solutions. Pourquoi les écologistes se battent autant aujourd'hui au niveau européen dans la perspective des campagnes municipales pour exercer les responsabilités? Parce que on le voit sur les énergies renouvelables, les solutions sont là. Sur l'isolation des logements, vous rendez compte que dans notre pays, sur le budget, on est en train de s'interroger si on réduit de beaucoup le budget de l'isolation des logements ou si on le réduit qu'un peu. Alors que...
On va notamment réserver aux Français qui en ont vraiment besoin, en excluant les Français les plus riches qui parfois, par un effet d'aubaine, touchaient des milliers d'euros pour changer leurs fenêtres.
Mais c'est pas... Enfin, franchement...
Non, ça vous semble pas une mesure de justice sociale de réserver les aides à l'isolation, par exemple, d'en priver les millionnaires.
Mais personne n'a jamais dit qu'il fallait pas... quand vous avez, pour un couple, 4000 euros par mois, vous n'êtes pas millionnaire. Donc, potentiellement, le gouvernement pense exclure les familles de ce niveau-là. Donc, on n'est pas millionnaire. Quand vous êtes dans les centres de villes aujourd'hui ou en dehors des centres-villes, emprunter et payer seul la rénovation du logement, c'est potentiellement très très lourd. Vous rendez compte? Attendez. Notre pays emprunte à 30 ans à moins 0,6%. Emprunte à 50 ans à 1,5%.
Donc c'est le moment de s'endetter investissement... et de laisser filer le déficit pour les investissements d'avenir. Si je vous souviens, non, pourquoi vous levez les yeux quand je dis ça?
Mais parce que la question, c'est pas le moment de s'endetter. C'est
de s'enrichir à long terme.
C'est le moment d'investir pour s'enrichir. C'est le moment...
Je crois que c'était le sens de ma question.
Absolument. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, c'est une hérésie de ne pas emprunter pour tout investissement public rentable. L'isolation des logements. Vous avez 7 millions de passoires énergétiques. Donc ça fait près de 13 millions de Français qui vivent dans la précarité énergétique. On a tous les moyens. Encore une fois, aujourd'hui, on sait faire des diagnostics sur les maisons qui sont extraordinaires. On a les moyens financiers d'investir. Ça crée des dizaines de milliers d'emplois d'artisans sur tous nos territoires, y compris là où il n'y a plus d'emplois, dans nos quartiers, dans certaines zones rurales. Franchement, c'est totalement absurde. Aujourd'hui, il n'y a plus un économiste qui ne défend pas cet investissement, notamment dans le logement, dans la transition énergétique.
Un autre sujet qui concerne directement les Français, Yannick Jadot, la retraite et la réforme des retraites qui est en cours et en cours de discussion. Le gouvernement veut instaurer un système par points. Les syndicats se mobilisent, ils annoncent une journée de grève interprofessionnelle. Les syndicats de la RATP se mobilisent pour une grève illimitée à compter du 5 décembre. Est-ce que vous soutenez ces mouvements syndicaux de grève contre cette réforme?
Je comprends parfaitement leur inquiétude, parce que aujourd'hui, vous n'avez pas un expert des retraites qui dit qu'on a un problème financier de moyen long terme sur les retraites. notre régime est à peu près équilibré. Le sujet,
attendez,
le
sujet, terme, j'essaie. Même les évolutions démographiques ne posent pas un problème à long terme.
Regardez, vous écoutez tous les syndicats, vous écoutez Pisani Ferry, qui est pas un syndicaliste, qui est un économiste, d'ailleurs assez proche du président de la République.
Et l'argument de l'équité.
Le problème. Ouais. Alors ça, c'est autre chose.
Celui-là, est-ce qu'il est valable?
Celui-là, il est autre
l'équité
chose.
L'équité entre les différents régimes.
Mais il y a. Personne n'est contre l'idée d'une simplification. Mais aujourd'hui, quel est le grand problème d'inéquité et d'inégalité? C'est que quand vous êtes ouvrier et que vous partez à la retraite, vous avez 6 ans d'espérance de vie en moins qu'un cadre, 10 ans d'espérance de vie en bonne santé.
Et l'autre grande inégalité, si vous me permettez de compléter dans vos propos, c'est également la retraite des hommes et des femmes.
Et exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une carrière professionnelle haché. Vous avez une carrière professionnelle avec beaucoup de temps partiel.
Mais c'est pas les régimes spéciaux, vous dites, on garde les régimes spéciaux.
Non, mais ça, moi je suis prêt à regarder tout ce que vous voulez, mais je veux que nous ayons une analyse extrêmement précise de la question de la pénibilité. Et je suis désolé, dans la RATP, comme dans la SNCF, comme pour les pompiers, comme pour les policiers, quand vous êtes d'astreinte les week-ends, les nuits, pendant les vacances, et ben à un moment, faut une forme de compensation. Ça s'appelle des régimes spéciaux. Mais on a un tel enjeu.
Fin, si vous voulez.
Oui, on a un tel enjeu de solidarité dans notre société, de rassurer sur le contrat social que nous passons entre les Français, pour leur offrir une perspective, y compris autour de l'écologie, que là, on a des très beaux sujets qui, vous voyez, nous éloignent sacrément de la question du voile.
Merci infiniment Yannick Jadot d'avoir accepté ce matin notre invitation.
Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info, Paris, la bataille, le feuilleton des municipales, un nouvel épisode tous les vendredis, un podcast à écouter sur franceinfo.fr, disponible aussi sur l'application Radio France.